Les podcasts de l'Institut de France.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Comment Isaac Newton, sans quitter sa chambre de Cambridge, a-t-il pu comprendre que la Terre n'est pas une sphère parfaite, mais qu'elle est légèrement aplatie au pôle? Comment a-t-il pu, avec presque aucune donnée expérimentale, estimer l'ampleur de ce minuscule écrasement? C'est cette aventure intellectuelle extraordinaire que je voudrais vous raconter aujourd'hui. À la fin du XVIIe siècle, on sait déjà depuis très longtemps que la Terre est ronde. On connaît même depuis Ératosthène, au IIIe siècle avant notre ère, un ordre de grandeur de son périmètre. Autrement dit, la taille de la Terre n'est plus un mystère. Mais Newton va poser une question nouvelle, plus fine, plus audacieuse encore. Non pas quelle est la taille de la Terre, mais quelle est exactement sa forme? Est-elle rigoureusement sphérique ou bien légèrement déformée? Je rappelle brièvement le contexte. Galilée a compris comment les corps tombent. Kepler a décrit la danse des planètes. Descartes propose une grande mécanique du monde, ambitieuse, fondée sur des tourbillons un peu fumeux, il faut bien le dire. Les pièces du puzzle sont là, mais il manque encore un principe unificateur. C'est précisément ce que va apporter Newton avec sa théorie de la gravitation universelle. Une même loi pour la chute d'une pierre, pour le mouvement de la Lune, et pour la trajectoire des planètes. Dans ce cadre entièrement nouveau, la forme de la Terre n'est plus un simple détail géographique, elle devient une conséquence directe et donc une mise à l'épreuve de cette nouvelle physique. Pour répondre à cette question, Newton commence comme le grand théoricien qu'il est. Il simplifie. Il accepte d'utiliser des hypothèses dont on sait parfaitement qu'elles ne sont que des approximations, mais des approximations fécondes. Première hypothèse, la Terre est homogène, de densité uniforme. Nous savons aujourd'hui que ce n'est pas le cas, mais pour une première approche, cette hypothèse ouvre un terrain de calcul. Deuxième hypothèse, la Terre se comporte comme un fluide. Cela peut surprendre car notre expérience quotidienne est celle d'un sol solide, mais Newton raisonne à l'échelle de grandes masses et de très longtemps. Un glacier sur une journée est immobile, sur des siècles il s'écoule. Newton imagine une Terre homogène, fluide, en équilibre. Et il faut insister, ce n'est pas de la naïveté, c'est une méthode de travail. Commençons avec Newton par un cas encore plus simple. Imaginons une immense masse de fluide, isolée dans l'espace, parfaitement immobile. Quelle forme peut-elle prendre? Chaque parcelle de ce liquide est attirée par toutes les autres, selon la loi de la gravitation universelle, une force proportionnelle aux masses et inversement proportionnelle au carré de la distance. Pour qu'il y ait équilibre, il faut que pour chaque goutte située à la surface, la force résultante soit perpendiculaire à cette surface. Sinon, le liquide glisserait comme sur un plan incliné. Dans une sphère parfaite, par symétrie, toutes les forces sont dirigées vers le centre. Elles sont donc naturellement perpendiculaires à la surface. La sphère est en équilibre, très bien. Mais la Terre n'est pas immobile. elle tourne. La rotation change tout. La Terre tourne sur elle-même en 24 heures. À sa surface, on ressent alors deux effets. D'abord, la gravitation qui attire chaque corps vers le centre. Et puis, un effet lié à la rotation, la force centrifuge, qui tend à éloigner les objets de l'axe de rotation. Cette force centrifuge est nulle au pôle et elle est maximale à l'équateur, là où la vitesse de rotation est la plus grande. Elle est faible comparée à la gravité, mais elle n'est pas négligeable. On devine alors que la Terre peut se déformer, se bomber légèrement à l'équateur et s'aplatir un peu au pôle. Mais ce n'est pas tout. Si l'équateur s'éloigne du centre, la gravité devient elle-même légèrement plus faible. Tout se combine. Et c'est maintenant que Newton va trouver une idée d'une élégance stupéfiante. Newton imagine, par la pensée, une expérience très simple. Il creuse mentalement deux puits jusqu'au centre de la Terre. L'un part du pôle Nord, l'autre part de l'équateur. Et il remplit ces deux puits avec le même liquide. Si la Terre est en équilibre, ce liquide ne doit pas s'écouler de l'un vers l'autre. Autrement dit, le poids des deux colonnes doit être exactement le même. Dans le puits qui part du pôle, la colonne ne subit que la gravitation. Dans le puits équatorial, elle subit à la fois la gravitation et l'effet centrifuge. Et de plus, si la Terre est renflée, la colonne équatoriale est légèrement plus longue. Newton doit donc comparer deux colonnes soumises à des forces différentes sur des hauteurs différentes. Pour aller plus loin, Newton a besoin d'une donnée expérimentale. Il la trouve dans un instrument très simple, le pendule. Un pendule oscille avec une période qui dépend de sa longueur et de l'intensité de la pesanteur. Plus la gravité est forte, plus il bat vite. Plus elle est faible, plus il ralentit. Or, un voyageur, français d'ailleurs, a observé qu'un même pendule bat légèrement plus lentement à l'équateur qu'à Cambridge. Et il a mesuré cette différence. Le pendule fournit ainsi à Newton une information quantitative décisive. La gravité effective est un peu plus faible à l'équateur. Il faut maintenant imaginer le travail mathématique. Newton doit intégrer l'effet gravitationnel de toute la Terre. Mais il dispose d'une puissance géométrique hors norme. Et surtout, il est en train d'inventer, presque en même temps, les outils du calcul différentiel et intégral. Il découpe mentalement le globe en couches, additionne leurs contributions, exploite les symétries. Il transforme un problème physique en un problème mathématique et il le pousse jusqu'au bout. Et au terme de ce travail, il obtient un résultat. L'écart entre le rayon équatorial et le rayon polaire doit être d'environ 1/300 du rayon terrestre. Autrement dit, la Terre doit être légèrement aplatie au pôle et renflée à l'équateur. Newton vient ainsi de prédire la forme d'une planète, la nôtre, sans satellite, sans ordinateur, sans quitter son bureau. Bien sûr, il faut vérifier, mais encore faut-il pouvoir le faire. Et pour vérifier, il faut mesurer. Mais comment mesurer la forme de la Terre au XVIIIe siècle ? La solution est alors ingénieuse. On va mesurer des arcs de méridien, c'est-à-dire la longueur correspondant à un degré de latitude. Si la Terre est aplatie, alors un degré doit être plus long près des pôles que près de l'équateur. La France lance alors des expéditions extraordinaires. Au nord, en Laponie, l'expédition dirigée par Pierre-Louis Moreau de Maupertuis. Il y fait froid, très froid. Les instruments se contractent, les doigts se gèlent, les nuits sont interminables. Il faut établir des réseaux de triangles sur des distances immenses, repérer des sommets, installer des signaux, mesurer des angles avec une précision stupéfiante. À l'autre bout du monde, près de l'équateur, l'expédition du Pérou, souvent associée à Charles-Marie de la Condamine, là, ce sont les montagnes, les maladies, la fatigue, les tensions humaines, les conflits avec les autorités locales. On est loin d'une promenade savante. Ce sont des années de terrain, de patience, de découragement parfois, et pourtant, peu à peu, les mesures convergent. Le verdict tombe, près des pôles, les degrés sont plus longs, la Terre est bien aplatie. Newton avait raison. Mais l'histoire ne s'arrête pas à cette confirmation. Au contraire, elle ne fait que commencer. Car une fois l'aplatissement établi, une question plus subtile surgit. Newton avait supposé que la Terre était homogène, or elle ne l'est pas. Alors comment aller plus loin? Comment affiner? C'est ici qu'apparaît un personnage magnifique, Alexis Claude Clairaut. Clairaut est un jeune prodige. En 1743, il publie une œuvre majeure, Théorie de la figure de la Terre. Il y montre que la forme d'équilibre ne dépend pas seulement de la rotation, mais aussi de la répartition interne des masses. Une Terre concentrée vers son centre ne se déforme pas comme une Terre uniforme. Autrement dit, la figure de la Terre devient une fenêtre sur sa structure. C'est un pas immense. On passe de la géométrie à la géophysique. Et Clairaut n'est pas seul. Jean Leron d'Alembert discute, critique, affine. Les mathématiques se perfectionnent, les méthodes d'analyse se stabilisent. Peu à peu, on apprend à tenir ensemble l'observation et la théorie, l'instrument et la formule. Et puis, au XIXe siècle, l'histoire prend un tour encore plus étonnant. On pourrait croire naïvement qu'un problème symétrique doit nécessairement avoir une solution symétrique. Ici, le problème de la figure d'équilibre d'une masse en rotation est invariant par rotation autour de son axe. Il semble donc évident que la forme d'équilibre doit être une surface de révolution, comme une poterie sur un tour. Cette intuition est si naturelle que beaucoup la tiennent pour une évidence presque logique. Et pourtant, elle est fausse. Au début du XIXe siècle, le mathématicien allemand Jacobi fait une découverte stupéfiante. Il montre qu'il existe des ellipsoïdes d'équilibre en rotation, dont les trois axes sont différents. Pas de symétrie de révolution, rien à voir avec un ballon de rugby. Ce sont des formes dissymétriques, et pourtant elles peuvent tourner à vitesse constante et rester en équilibre. C'est une rupture conceptuelle très profonde. La symétrie du problème n'impose pas nécessairement la symétrie de la solution. La solution peut, en quelque sorte, briser la symétrie. À partir de là, beaucoup de mathématiciens se passionnent pour ces figures d'équilibre. On reste encore souvent dans un cadre idéal, fluide homogène, gravitation newtonienne, mais le paysage intellectuel a définitivement changé. Et c'est ici qu'entre en scène Henri Poincaré. Sa thèse, soutenue en 1879, est devenue un moment célèbre. À l'époque, il existe une tradition particulière, celle de la seconde thèse. Le doctorant doit montrer qu'il est capable d'assimiler rapidement un sujet nouveau, distinct de sa recherche principale, en étudiant un texte donné par un spécialiste. Pour sa seconde thèse, on demande à Poincaré de s'intéresser aux ellipsoïdes de Jacobi. Officiellement, il s'agit d'expliquer, de clarifier, de mettre en ordre ce qui est déjà connu. Mais Poincaré ne se contente jamais d'expliquer, il invente. Il construit une théorie beaucoup plus générale des figures d'équilibre. Il s'intéresse à leur stabilité, à la façon dont une famille de solutions se transforme quand un paramètre varie, comme ici la vitesse de rotation. Et il découvre alors des formes encore plus surprenantes, encore moins symétriques, des formes qui ressemblent vaguement à des poires, les poires de Poincaré. Une masse fluide, homogène, en rotation suffisamment rapide, peut adopter une forme asymétrique et pourtant rester en équilibre. Nous sommes désormais très loin de l'image simple d'une Terre légèrement aplatie. Nous entrons dans une histoire de bifurcation, de stabilité, de symétrie qui se brise. Pour les masses en rotation, quelle est la forme d'équilibre pour une vitesse donnée ? Quelle famille de solutions existe ? Lesquelles sont stables ? Lesquelles ne le sont pas ? Bien sûr, ces questions sont parfois éloignées de la géophysique réelle, car la Terre n'est ni un fluide parfait, ni homogène, ni isolé. Mais elle prolonge directement l'intuition de Newton. Comprendre comment des lois simples contraignent la forme des mondes. Aujourd'hui, bien sûr, la question de la figure de la Terre a pris une dimension nouvelle. Les satellites et le GPS permettent de mesurer les variations du champ de gravité, les déformations de la croûte, les mouvements verticaux après la fonte des glaciers. Et pourtant, au cœur de cette complexité moderne, l'idée de Newton reste lisible. La rotation laisse une signature globale et on peut même mettre un nombre sur cette rotation. Le rayon terrestre à l'équateur dépasse celui des pôles d'environ 21 km. 21 km, ça semble beaucoup, mais à l'échelle de la planète, c'est presque rien. Si on réduisait la Terre à une boule d'un mètre de diamètre, cet aplatissement ne ferait qu'environ 3 mm. Et pourtant, ce détail a des conséquences presque poétiques. Il permet même une petite devinette. Quel est le plus haut sommet de la Terre ? On répond spontanément le mont Everest, bien sûr, avec ses 8845 mètres au-dessus du niveau de la mer. Si l'on parle d'altitude, c'est exact. Mais posons une autre question. Quel est le point de la surface terrestre le plus éloigné du centre de la Terre ? Alors, la réponse change. Ce point, c'est le Chimborazo, en Équateur. Il est moins haut que l'Everest en altitude, mais il est presque sur l'équateur et il bénéficie donc du renflement terrestre. Son sommet se trouve en distance au centre, un peu plus loin que celui de l'Everest. Environ 6 384 687 mètres contre 6 382 460 mètres, soit plus de 2 km de différence. Tout cela à cause de quelques kilomètres d'aplatissement. D'un côté, la théorie. De l'autre, l'expérience. Ni l'une ni l'autre ne suffit seul. De Newton à Maupertuis et la Condamine, de Clairaut à Poincaré, des expéditions aux satellites, la figure de la Terre reste un dialogue ininterrompu entre le calcul et la réalité. Vous avez écouté des extraits de Sleep de Max Richter.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.